Vous écoutez Quad Meuf, le podcast féministe et intersectionnel qui parle pop culture. C'est une discussion à deux, chaque semaine, accompagnée de l'une de mes acolytes. On parle aussi bien de société que de politique, de patriarcat, de chat, de tofu et de Rihanna. Je suis Clémentine Gallo.
Et moi, Pauline Verdusier.
C'est parti ! Attention, petit trigger warning, cet épisode parle de violence sexuelle. Bienvenue dans ce mini-épisode sur un objet culturel. On est avec Pauline cette semaine. Salut.
Salut Clémentine.
Alors, à l'heure où Netflix continue son opération de séduction de la jeunesse avec des résultats assez inégaux, on peut citer parmi les séries 13 Reasons Why, On My Block ou encore Sex Education. De notre côté, on va évoquer ensemble, sans spoiler évidemment, la série dramatique policière Unbelievable qui est disponible depuis la mi-septembre et qui déconstruit les idées reçues sur les violences sexuelles.
Oui, d'abord un petit point vocabulaire. Donc, unbelievable en français, ça veut dire difficile, voire impossible à croire. Donc, ça se passe dans l'État de Washington et la série s'ouvre sur l'histoire de Mary Adler, donc qui est jouée par Caitlin Dever, l'actrice de la super teen comedy Booksmart.
Oui.
Donc, Mary est une ado placée en foyer pour jeunes en grande difficulté. Et on apprend qu'elle a été agressée dans la nuit par un inconnu masqué qui s'est introduit dans sa chambre. Donc, il l'a violée pendant plusieurs heures, il l'a prise en photo, il l'a menacée avant d'effacer les traces de son crime. Et la police se rend sur les lieux et commence à interroger Mary. Mais lors de sa déposition au commissariat, en fait, elle a déjà été contrainte de raconter son histoire à plusieurs reprises. Elle est confuse, elle est intimidée par les policiers. Et sous pression, elle finit par dire qu'elle a menti et à être elle-même poursuivie pour fausses accusations.
Je sais que c'est dur, mais je dois vous poser des questions sur ce qui s'est passé.
Il m'a tiré mes mains. Il m'a dit que si je screamed, il m'a tué. Pas
de signes de forced entry. Les doors et les windows étaient locked. No DNA. Not a single neighbor saw or heard a thing.
Donc là, tout se retourne contre elle, ses proches, la police, les médias. Et ensuite, la série fait un saut dans le temps pour amorcer un récit parallèle. Donc on est 3 ans plus tard dans le Colorado, cette fois. Et des cas de viols similaires se sont produits. Et donc, 2 enquêtrices de commissariats différents, Grace Rasmussen, qui est jouée par Toni Collette, et Karen Duvall, jouée par Merritt Weaver, géniales actrices, décident de collaborer pour enquêter sur la piste d'un violeur en série. Et donc, ce sont elles qu'on va suivre tout au long du récit, tout en découvrant les histoires des victimes. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on en a pensé ? Qu'est-ce que tu en as pensé, Clémentine ?
Alors, moi, je trouve d'abord que c'est une réponse assez géniale à d'autres séries policières, par exemple True Detective, dans laquelle 2 gars déblatéraient et nous mansplainaient la vie.
Look, I'd consider myself a realist, right? But in philosophical terms, I'm what's called a pessimist.
Par ailleurs, j'adore toutes les actrices que tu as citées. J'ai souvent un faible pour les enquêtrices, notamment Gillian Anderson dans la série The Fall. Et je trouve que justement, Unbelievable réussit très bien à ne pas essentialiser des qualités qu'on verrait comme naturalistes et féminines chez les policières. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas par nature plus douées ou plus gentilles, mais qu'on voit très bien que l'empathie, en fait, c'est le résultat d'un travail. Voilà. Après, la série a clairement un agenda politique qui pourrait être plombé par son didactisme, mais je trouve que c'est pas le cas. Mais bon, j'ajouterais quand même que de mon côté, j'ai un rapport un peu ambivalent à Netflix et je trouve que c'est un diffuseur qui bouffe vraiment à tous les râteliers et qui a un algorithme qui essaye de faire plaisir à tous les publics. Donc voilà, je rappelle qu'on n'est pas dupes.
C'est vrai.
Et alors toi, qu'est-ce que t'en as pensé ?
Bah oui, moi en fait, je suis quand même tout à fait d'accord avec toi parce que je trouve que cette série, c'est un parfait contrepoint aux séries policières masculines mainstream. Donc dans ce genre-là, en fait, c'est vrai qu'on voyait souvent des choses très testostéronées avec des interrogatoires musclés, une espèce de justice revancharde, des enquêtes donc sur des violences commises sur des femmes, des enfants, des enlèvements, des meurtres et des viols, mais où en fait tout ça est souvent prétexte à mettre en valeur des enquêteurs valeureux sans que les violences soient forcément un sujet à part entière et sans que les victimes aient forcément voix au chapitre. Mmh. Alors Unbelievable, je trouve que c'est la série policière qui nous manquait parce que on a le plaisir de suivre donc ce tandem de policières qui traquent un criminel avec les rebondissements qui sont liés à ce type de scénario. Et en même temps, il y a un propos vraiment fort sur le sujet des violences sexuelles qui est documenté pendant toute la série, tu l'as dit, par des chiffres, des éléments de psychologie du trauma, etc., sans que ça alourdisse quoi que ce soit. Et surtout, ben oui, les femmes policières, comme tu l'as dit, ne sont pas caricaturales. Et en fait, elles ne singent pas les comportements masculins, mais en même temps, elles ne sont pas tendres entre elles. Et on va suivre leur flottement et leur moment de grâce. Et en fait, il y a une rigueur et une connaissance du terrain qui les unit toutes les deux et qui me semble hyper juste, hyper inspirante.
This is not something people get over, this is something they carry with them forever.
Et c'est un désir de justice et une empathie pour les femmes victimes qui est forte à regarder, quoi.
Oui, alors il faut aussi ajouter que la série est tirée d'une histoire vraie, puisqu'en fait elle vient d'un article qui a été publié en 2015 par ProPublica, qui est une association qui enquête de manière indépendante. Et donc cette enquête a gagné en plus le prix Pulitzer. Donc la showrunneuse de la série, Susanna Grant, qui est par ailleurs la scénariste de Erin Brockovich, rien que ça, l'a adaptée avec le couple d'écrivains Ayelet Waldman et Michael Chabon, que peut-être on connaît déjà. Voilà, alors en tout cas, pour parler de deux points qui nous ont marqués, on l'a dit, la série permet vraiment de voir les deux côtés de cette histoire en se plaçant à la fois du côté des victimes mais aussi des autorités. Donc pour parler d'abord des victimes, c'est vrai que la fiction souvent minimise ou objectifie les victimes et là c'est pas le cas, tant mieux. Et la série s'attache vraiment à déconstruire le mythe de la victime idéale et aussi le phénomène du victim blaming, c'est-à-dire le fait de blâmer donc une victime pour ce qui lui arrive. Et la série nous dit bien que la victime idéale n'existe pas et que tous les cas sont différents. Que se souvenir ou pas de certains détails, ça peut parfois créer la suspicion chez la police, alors qu'il n'y a pas forcément de raison.
You think Marie made up the attack?
Qu'avoir un passé difficile ou des circonstances considérées comme aggravantes, c'est-à-dire donc on sait porter une jupe ou avoir bu de l'alcool, ça peut alimenter le soupçon qu'on a tout inventé, alors que précisément, quand on est une personne vulnérable, on est au contraire plus susceptible d'être victime d'un crime, a priori. Et je trouve que ce qui est intéressant, c'est que la série choisit vraiment de montrer des profils de victimes très différents, on l'a dit. Donc il y a plusieurs femmes, jeunes, vieilles, blanches, racisées, de tout milieu, voilà.
Oui, c'est clair. Et en plus, la série montre plusieurs manières de réagir face au viol. C'est-à-dire que dans l'idée qu'il n'y a pas de bonne manière, il y en a une qui a réussi à se sauver, une autre qui couche avec plein d'hommes sans vraiment le vouloir en conséquence de son trauma. Il y a Marie qui, elle, veut enterrer tout ce qui s'est passé. Elle est même assez hostile envers ses proches qui veulent l'aider. Enfin, parfois, eux-mêmes sont pas du tout aidants. Mais en fait, elle peut parfois sembler antipathique. Mais en tout cas, il n'y a pas de bonne réponse ni de bonne attitude. Juste plusieurs manières de faire face. Et je trouve que c'est vraiment un gros plus de la série, puisque les victimes sont pas mortes ou silenciées. On va les entendre, elles vont parler, elles vont même collaborer avec les policières. Elles tentent de se reconstruire et elles sont vraiment présentes à l'écran et la série les fait exister. Et je trouve que c'est un point hyper intéressant.
Ouais, carrément. Et alors, on voit aussi comment est amplifié et façonné un autre mythe qui est le mythe de la fausse victime. Alors que voilà, les fausses victimes, c'est quand même c'est vraiment une exception et pas du tout une règle. Et on se souvient en France notamment de l'affaire du RERD qui avait fait scandale. Et donc, on voit très bien comment ce mythe-là va se retourner, tu l'as dit, contre la victime elle-même qui va être traînée dans la boue et citée nommément, en plus, dans tous les médias, parce qu'elle a changé de version, simplement pour avoir la paix et pour pouvoir retirer sa plainte. Et je voulais aussi faire un tout petit point langage. On ne dit pas « se faire violer », on dit « être violé ». Voilà, on le rappelle à toute fin utile.
Mais c'est vrai que le mythe de la fausse victime, c'est hyper compliqué, parce qu'en plus, ça ne veut pas dire que ça ne s'est pas passé, vu que dans le cas de Marie, elle voulait juste cesser le cercle vicieux en désinterrogeant et de tout ce que ça engendrait d'ouvrir une enquête. Et c'est hyper intéressant puisque la série en fait s'ouvre plutôt par une représentation qu'on peut imaginer un peu stéréotypée, c'est-à-dire que le viol est commis par un inconnu armé, alors que dans la majorité des cas, le viol est plutôt commis par quelqu'un de connu de la victime. Donc moi au début j'ai eu un peu peur de ce côté un peu spectaculaire, mais au final tout le reste de la série tisse quelque chose de beaucoup plus complexe sur le sujet du viol et surtout c'est une vraie réflexion sur le monde policier, on va en parler. Et en fait surtout c'est comme ça que l'histoire s'est passée, si j'ai bien compris, puisque la série se base sur une enquête. Et donc finalement, je trouve que cet aspect en fait très anxiogène du serial criminel masqué qui viole ses victimes pendant des heures n'est pas gratuit pour le coup, alors que dans d'autres films ou séries, ça pourrait créer une espèce de fascination morbide ou même une sexualisation des victimes, mais là, on n'est vraiment pas là-dedans.
Oui, et alors on voit bien justement que quand bien même ce viol est le plus stéréotypé, la victime n'est quand même pas crue, quoi, ce qui est incroyable, ouais. Alors que c'est vraiment le cas d'école le plus classique.
Donc, oui, du grand méchant horrible qu'il faut absolument arrêter à tout prix.
Voilà,
quoi.
C'est ça. Donc on se dit que dans d'autres cas, comment est-ce que les gens pourraient être crus?
Vas porter plainte contre ton pote ou contre ton oncle.
C'est ça. Et alors, pour parler un peu du côté de la police et des violences policières, on voit que le tableau est à charge, puisqu'il y a des bavures en série, pas assez de personnel, des outils mal utilisés, un accueil calamiteux, des procédures problématiques. Et alors, on voit aussi le paradoxe de l'arsenal scientifique qui est déployé, donc ça, c'est plutôt très chouette. Sauf que la longueur des examens peut quand même démotiver des victimes, puisque ça peut être retraumatisant, tout comme de raconter 10 fois la même histoire violente. Moi, je voudrais quand même faire un petit big up aux deux enquêtrices et aux actrices, donc Toni Collette et Merritt Weaver.
Incroyable.
Voilà, qui sont des policières, donc pas des fliquettes, merci de ne pas caricaturer. Et d'ailleurs, la showrunneuse de la série a bien insisté insister pour dire qu'elle n'essayait pas de reproduire le duo comique habituel du buddy movie masculin, voilà, que là c'était autre chose. Et justement, la série va agir comme une sorte de to-do list des choses à faire et à ne pas faire à destination peut-être de la police, puisque là on voit vraiment deux exemples de traitement des violences sexuelles, d'un côté par des policiers masculins et de l'autre par des policières. Et donc on va voir d'un côté des bonnes pratiques, notamment le fait de prendre en compte et de comprendre les mécanismes de la sidération, par exemple voilà, le fait de faire un blackout ou de juste pas pouvoir se souvenir des détails de son agression en fait.
Oui, et d'ailleurs les hommes policiers se sentent très cons à la fin. Donc ouais, t'as raison, tout est extrêmement documenté, ça montre les problèmes dans la façon dont certains policiers prennent la déposition d'une victime quand ils connaissent pas le sujet. Et Grace et Karen sont pas des figures morales, juste elles connaissent leur sujet. C'est des enquêtrices qui sont chevronnées.
C'est juste une expertise en fait.
C'est une expertise et elles sont juste formées à ça quoi. Et le sujet parle aussi du sexisme au sein même de la police. Et d'ailleurs, les deux enquêtrices vont citer des chiffres sur le fait que les policiers sont par exemple surreprésentés chez les hommes poursuivis pour violence conjugale aux États-Unis. Et on voit en fait qu'elles marchent sur des œufs pour pas passer pour les meufs relous qui n'hésiteraient pas à dénoncer les dysfonctionnements dans leur corps de métier. Donc ça les rend aussi très intéressantes. Mmh. Et aussi parce qu'elles enquêtent sur des viols et pas des meurtres, et ça pose certaines questions dans le monde policier. Et on peut quand même souligner que oui, les moyens mis sur l'enquête sont assez impressionnants. Je pense que ça montre qu'une partie du traitement policier d'un certain type d'affaires de viol. Parce qu'il faut rappeler que dans la majorité des cas, déjà, les victimes ne portent pas plainte. Donc en France, il y a eu une campagne d'oser le féminisme, viol, la honte doit changer de camp, qui rappelait que 90% des victimes ne portent pas plainte, que seuls 2% des violeurs sont condamnés. Donc moi-même,
c'est pas très encourageant, effectivement.
Non, mais moi-même j'avais travaillé sur le sujet et c'est vrai que j'avais eu beaucoup de témoignages de femmes qui avaient même pas réussi à déposer leur plainte, ou alors quand c'est déposé, les enquêtes sont classées très rapidement, ou alors requalifiées pour passer devant le tribunal correctionnel et pas devant, et pas au pénal. Donc il y a toutes ces choses là.
Oui, il faut être soi-même expert pour pouvoir déposer plainte en fait.
Mais un petit point d'espoir dans la série, c'est quand même la sororité qui est montrée à l'écran. Par exemple, dans une scène géniale de meufs policières qui jouent au billard entre elles et qui vont s'échanger des informations, qui savent collaborer et sans se mettre des bâtons dans les roues, mais qui sont pas non plus les meilleures amies du monde, c'est pas non plus complètement idéalisé. Et moi, j'ai adoré aussi les scènes où les deux policières se confient toutes les deux sur leur métier, sur les moments où elles ont eu peur, où elles se disent qu'elles auraient pu éviter certaines choses. Par exemple, quand Karen dit qu'elle aurait pu sauver une femme qui a été tuée par son conjoint et qu'elle s'en veut énormément. Je trouve que ces scènes sont bouleversantes.
Mmh. Oui, c'est vrai. Et alors, tout ça nous amène lentement mais sûrement vers notre conclusion, c'est-à-dire toujours la même question qui revient. Comment filmer la violence sexuelle? C'est toujours une épineuse question qui mêle à la fois la mise en scène et l'idéologie. Dans le cas de la série, c'est la cinéaste Lisa Shodolenko qui avait réalisé le film The Kids Are Alright qui va démêler tout ça. Et elle choisit notamment par le montage de mêler des flashbacks et des souvenirs qui peuvent ressurgir n'importe quand. Et on voit très bien que la forme des épisodes va vraiment épouser le fonctionnement fragmentaire de la mémoire avec son ressort.
Oui, et puis en plus, je trouve que dans Unbelievable, les séquences de flashback en fait sont anxiogènes, mais sans trop en faire non plus. Et c'est pas le misery porn à la Handmaid's Tale qui alignait les pires sévices qu'on puisse faire aux femmes de manière vraiment implacable. Donc là, on est plutôt dans l'après, dans la vie. Et dans l'urgence surtout d'arrêter cette série de viols.
Oui, alors la question qui se pose, je pense, sans cesse, dans les choix de mise en scène, c'est qu'est-ce qu'on va montrer? Est-ce que c'est complaisant? Est-ce que ça relève d'une exploitation parfois putassière? Moi, je me réfère toujours à une œuvre qui est un peu indétrônable sur la question du viol, qui est King Kong Theory, évidemment, de Virginie Despentes. Mais il y a un film qui est aussi sorti cette année, que je recommande, c'est Comme si de rien n'était, de l'allemande Eva Traubisch. J'espère que je prononce bien, qui raconte ce qui se passe en fait pour une jeune femme quand on essaie de vivre avec un viol, enfin de vivre après, de se dire que en fait c'est pas si grave et de voir quels effets collatéraux, quelles conséquences ça va avoir et de quelle manière ça va s'immiscer de manière imperceptible dans le quotidien et les relations.
Chez une femme notamment qui a décidé justement de ne pas porter plainte, c'était hyper intéressant. Et moi je trouve qu'il y a des nouvelles représentations qui émergent sur les violences sexuelles et c'est assez salutaire. Je renvoie à notre épisode sur la série Big Little Lies qui parle aussi de viol et notamment du date rape.
Donc c'est-à-dire du viol lors d'un rendez-vous amoureux.
et qui évoque la mémoire traumatique d'une manière très intéressante. Et puis citer rapidement le film de Kauter Benania, La Belle et la Meute, sur le traitement policier du viol en Tunisie. Donc un film qui se plaçait vraiment du point de vue de la victime et de sa confrontation aux autorités. C'est aussi un film à voir, je pense.
Alors regardez Unbelievable et donnez-nous votre avis sur nos réseaux sociaux, @quadmeuf, sur Twitter et Instagram. Vous retrouverez tous les liens évoqués dans la description de l'épisode. Si vous aimez ce podcast, laissez-nous aussi des étoiles sur Apple Podcasts et parlez-en autour de vous. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode long. Salut Pauline.
Salut Clémentine.
Quadmeuf est une émission de nouvelles écoutes. Cet épisode est conçu par Clémentine Gallo
et présenté par Pauline Verdusier.
Réalisé par Aurore Meyer-Mailleux, monté et mixé par Laurie Galigani, prise de son et coordination Ashley Tola.